RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bienvenue dans le programme des journaux. On commence par le titre. La production de café Bondowoso Arabica a triplé. Le vice-ministre des Affaires étrangères répond à la question de l'interdiction des citoyens indonésiens à Jérusalem. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a fait pression sur les pays amis pour la nomination des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation Nations Unies. Les étudiants sont invités à réaliser l'Indonésie, le grand jeu alimentaire mondial. République d'Indonésie et l'Union européenne stimulent les exportations industrielles. Voici le journal complet. La production de café arabica à Bondowoso, Java de l'Est, a triplé en 2018 par rapport à 2017. Le président de l'Association indonésienne des producteurs de café, Sumarhum, à Bondowoso, a déclaré vendredi que la récolte de café arabica de l'année dernière n'était que d'environ 200 kg de green bean ou grains de café par hectare, mais cette année a atteint environ 700 kg par hectare. Il a souligné cette année la météo soutient fortement les plantes du café arabica, dont il a augmenté par rapport à l'année précédente, mais cette augmentation n'est pas pour le type de café robusta. La deuxième nouvelle s'agit de la question de l'interdiction des citoyens indonésiens à Jérusalem. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Abdurrahman Muhammad Fahir, a répondu à la question de l'interdiction des citoyens visitant Jérusalem en disant que chaque pays a sa propre politique en matière d'octroi de visa. À Jakarta jeudi, il a déclaré que tous les pays ont une politique pour déterminer les étapes ou les décisions liées à l'octroi des facilités de visa. Bien sûr, il existe également des règles internationales. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune déclaration publique du côté israélien de la question. Auparavant, il y avait une question que les touristes passeport indonésiens ne pouvaient pas visiter Jérusalem après le 9 juin. Les citoyens indonésiens seraient toujours autorisés à entrer avant la date indiquée. Le gouvernement israélien ne permettra pas aux touristes indonésiens d'entrer en Israël en réponse au refus du gouvernement indonésien d'accorder des visas touristiques aux citoyens israéliens. Puis, on va parler de la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, est optimiste que l'Indonésie puisse être élue pour devenir le membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 à 2020. Elle a fait pression sur les pays amis afin d'apporter leur soutien à l'Indonésie, l'un d'eux est le Guyana. Retno Marsudi, lors d'une réunion de travail avec la Commission 1 de la Chambre des représentants à Jakarta jeudi, le 31 mai 2018, elle a déclaré que le voyage à New York, principalement lié à la pression de la campagne de candidature de l'Indonésie pour les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'élection aura lieu le 8 juin 2018. Elle a expliqué que si l'Indonésie passe cette élection, l'Indonésie s'engagera à encourager la création d'un écosystème global pacifique et stable avec des priorités, c'est en synergie avec les organisations régionales pour la résolution pacifique des conflits, pour renforcer les casques bleus des Nations Unies, pour la synergie entre la paix et le programme de développement, y compris en Afrique. Elle a affirmé que son côté a demandé l'appui de la Commission 1 de la Chambre des représentants et de tout le peuple de l'Indonésie. La quatrième nouvelle sur les étudiants sont invités à réaliser l'Indonésie le grand jeu alimentaire mondial. Le ministre de l'Agriculture de l'Indonésie, Andi Amran Sulaiman, a dit que la jeune génération joue un rôle important pour accélérer l'augmentation de la production agricole. L'étape concrète est que les étudiants font de l'innovation technologique agricole et de l'aide aux agriculteurs. Le ministre Amran Sulaiman, lors de la réunion des générations de l'agriculture avec 221 étudiants de 58 universités en Indonésie et de 3 collègues de vulgarisation agricole à Jakarta, mercredi, le 30 mai, a déclaré que le rôle de la jeune génération est nécessaire, comme un partisan de la réalisation de l'Indonésie, le grand alimentaire, en 2045. Les étudiants sont nécessaires pour résoudre les problèmes de conversion de terres, de réduction de la pauvreté, de collecte de données de production précise et pour lutte contre les ravageurs. La dernière nouvelle, on parle de la République d'Indonésie et l'Union européenne stimule les exportations industrielles. L'Indonésie continue d'étendre le marché d'exportation des produits industriels à la région de l'Union européenne, notamment les produits alimentaires et les boissons, les textiles, les vêtements et les chaussures, ainsi que l'huile de palme et ses dérivés. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, par sa déclaration à Jakarta, mercredi, il a déclaré que l'économie de l'Indonésie et de l'Union européenne ont été en synergie. Et la concurrence des produits entre les deux parties est différente, de sorte qu'ils peuvent se compléter. Airlangga Hartarto l'a déclaré après avoir reçu la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gerang, au ministère de l'Industrie à Jakarta. Il a indiqué que, dans le but d'améliorer la coopération économique bilatérale, le ministre de l'Industrie encourage également l'accélération de l'achèvement des négociations de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne. La quatrième négociation a eu lieu en février 2018 à Surakarta, Java Central. et la cinquième négociation aura lieu en juillet 2018 à Bruxelles, en Belgique.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, le cessez-le-feu Hamas-Israël. Mardi, utilisant des roquettes et des mortières, le Hamas, en mouvement contrôlant la bande de Gaza, a frappé une cible dans le sud d'Israël. Cette grande attaque est la première depuis 4 ans. L'Israël, qui a récemment commis des actes de violence contre des civils palestiniens, a ensuite lancé une contre-attaque au moins 35 fois contre plusieurs cibles à Gaza. Les avions de combat israéliens ont pris part à la mission d'attaque sur les 7 sites du Hamas et du djihad islamique, y compris les entrepôts de munitions. L'Israël revendique qu'il n'y a aucune victime de sa part. Ils ont finalement accepté un cessez-le-feu depuis mercredi, le 30 mai 2018. D'autre part, depuis la vague de manifestations du peuple palestinien à partir de la fin de mars, au moins 120 Palestiniens ont été tués. Les manifestants ont appelé l'Israël à rendre le territoire occupé. Certains d'entre eux ont été tués dans la manifestation à la frontière entre Gaza et Israël, y compris 61 personnes il y a 2 semaines. Le reste a été tué par des frappes aériennes israéliennes. La partie israélienne a prétendu défendre simplement la frontière et accusé le Hamas d'avoir poussé les manifestants à la frontière. En plus de restreindre la zone terrestre, l'Israël a également bloqué les eaux territoriales au large des côtes de Gaza. Cela a été fait en installant une barrière pour éviter l'infiltration de la bande de Gaza dans le territoire israélien, comme cela s'est produit en 2014. Les Palestiniens ont protesté contre le blocus. Un navire transportant 20 personnes et plusieurs autres petites embarcations a ensuite quitté le port de pêche de Gaza. Il n'y a aucune réponse de l'armée israélienne concernant les manifestations contre le blocus maritime. La survenance d'une attaque mutuelle est certainement très regrettable, parce que l'Israël utilisait des avions de chasse sophistiqués qui étaient plus gros que de simples attaques de roquettes et de mortières. Espérons que le cessez-le-feu peut durer longtemps. Les deux parties devraient s'abstenir et prioriser les négociations. L'Indonésie, qui soutient la solution des deux États, souhaite certainement que la Palestine devienne un véritable pays. Ainsi, l'un des problèmes de la région du Moyen-Orient peut être résolu. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 1er juin. Le 1er juin 1945, le président Sukarno a révélé leader sur 5 principes d'État. Le 1er juin 1945, Sukarno a prononcé un discours lors de la première réunion de l'Agence d'enquête sur les efforts de préparation de l'indépendance indonésienne BPUPKI du 29 mai au 1er juin 1945. À ce moment-là, Sukarno proposait le nom des principes de l'État indonésien Pancasila, un nom qu'il obtient d'un ami linguiste. Pancasila proposé par Sukarno à cette époque est tout à fait différent de Pancasila que nous connaissons aujourd'hui, en particulier dans la composition éditoriale, systématique ou séquence des principes. Pancasila proposé par Sukarno est comme suit. Nationalité indonésienne. internationalisme ou humanité, consensus ou démocratie, bien-être social, divinité culturelle. C'est différent avec les manuscrits officiels de Pancasila que nous connaissons aujourd'hui, à savoir la croyance dans le seul et unique, une humanité juste et civilisée, unité de l'Indonésie, la démocratie guidée par la sagesse dans les délibérations de représentation, la justice sociale pour tous les Indonésiens. Le texte officiel de Pancasila a été adopté le 18 août 1945 par une séance du comité préparatoire pour l'indépendance indonésienne, en même temps que l'adoption de la Constitution 1945 en tant que Constitution de l'État. Le 1er juin est considéré comme l'anniversaire de Pancasila à partir de 1947. Le 1er juin 1980, CNN a été pour la première fois diffusé. Cable News Network CNN est une chaîne d'information par câble des États-Unis fondée par Ted Turner, qui est le roi des médias de masse et philanthrope en Amérique. Au début de son lancement, CNN est la première chaîne d'information aux États-Unis à diffuser une couverture d'information 24 heures. En dépit de ses nombreuses agences, CNN diffuse plus souvent depuis son siège social au CNN Center à Atlanta, Time Warner Center à New York et dans les studios à Washington DC et Los Angeles. CNN a été diffusé pour la première fois à 17h le 1er juin 1980. La première diffusion commence par un accueil de Ted Turner, suivi d'une émission de nouvelles animées par David Walker et Lois Hart. CNN a étendu avec succès sa diffusion à divers autres médias. Pour le réseau international, CNN compte 26 représentants du bureau, y compris l'Indonésie. Et ces émissions peuvent être diffusées dans 212 pays du monde. Le 1er juin 2009, Air France vol 447 vers Rio de Janeiro, Paris, tombe dans l'océan Atlantique. Le vol 447 d'Air France est un Airbus A330-200 qui s'opère comme un avion à passagers international. L'avion transporte des passagers de l'aéroport international de Rio de Janeiro, Galeão, au Brésil, à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, en France. Après avoir quitté Rio de Janeiro, l'avion a disparu des radars dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009. Il y avait 216 passagers et 12 membres d'équipage. Les efforts de recherche sur les victimes et les débris de cet avion ont été faits. Jusqu'au dimanche 7 juin 2009, 17 corps ont été retrouvés. Le 8 juin, le stabilisateur vertical de cet avion a été retrouvé. Le 17 juin, 50 corps ont été retrouvés. Le 26 juin, la recherche s'est finalement arrêtée. Le 6 mai 2010, la boîte noire de l'avion a finalement été localisée. Le 1er mai 2011, les deux boîtes noires d'avion ont été découvertes et soulevé du fond de l'océan. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et un petit titre, l'Indonésie et l'Inde renforcent leur partenariat stratégique. L'Indonésie et l'Inde ont signé 15 documents de mémorandum d'accord sur la coopération dans plusieurs domaines, témoigné par le président de l'Indonésie, Joko Widodo, et le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, au Palais Merdeka Jakarta, mercredi 30 mai. Après la réunion bilatérale avec le premier ministre Narendra Modi, le président Joko Widodo a déclaré aux journalistes que l'Indonésie est prête à coopérer plus étroitement et plus fort avec l'Inde. Selon le président, la valeur stratégique des relations entre les deux pays se reflète dans le renouvellement de la coopération dans le domaine de la défense. Une autre chose qui est également convenue entre les deux pays est la formation d'unités de détachement spécial pour le développement des infrastructures liées au port Sabang dans le détroit de Malacca, l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. L'Indonésie et l'Inde ont également convenu de coopérer dans l'exploration et l'utilisation de l'espace pour la paix, le secteur ferroviaire, la science et la technologie, le renforcement des capacités des appareils étatiques civils, le dialogue politique entre les gouvernements et l'interaction des institutions d'études, la réglementation des produits pharmaceutiques, des matières premières des médicaments, des produits biologiques et des cosmétiques, la coopération de la province Bali et Uttarakhand et la coopération dans le secteur de la santé. Dans son entretien avec Modi, le président Joko Widodo a spécifiquement demandé une réduction des droits de douane sur les produits indonésiens d'huile de palme en Inde. Selon le président, le premier ministre Modi entreprend de revoir la politique qui s'y rapporte. Cependant, Narendra Modi a dit que l'Inde veut augmenter la valeur des échanges jusqu'à 50 milliards de dollars américains en 2025. Cela correspond à la tendance de l'augmentation des investissements indiens en Indonésie, qui atteint maintenant 18,7 milliards de dollars américains. Après une réunion bilatérale au Palais Merdeka, le président Joko Widodo et le premier ministre Modi ont assisté à l'exposition de cerfs-volants d'Inde en Indonésie dans la zone du monument national. Cette exposition de cerfs-volants a eu lieu pour resserrer la relation entre les deux pays. À cet endroit, le président Joko Widodo et le premier ministre Narendra Modi ont joué ensemble en cerf-volant. Après avoir rencontré le président Joko Widodo, le premier ministre indien Narendra Modi s'est entretenu mercredi à Jakarta avec des milliers d'Indiens. Dans son discours, a déclaré Modi, la présence de la diaspora indienne a contribué de manière significative à la promotion des relations bilatérales entre l'Inde et l'Indonésie. Après sa visite en Indonésie, le premier ministre Narendra Modi est parti pour la Malaisie jeudi 31 mai, puis à Singapour pour participer au forum sur la sécurité du dialogue Shangri-La. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Semangatmu tegaklah berdiri. terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons l'un des objets de tourisme de Lombok en province de Nusa Tenggara Occidentale. Restez à l'écoute. Musique. À Lombok, dans la province de Nusa Tenggara Ouest, ou NTB, il y a beaucoup de petites îles ou localement appelées Gili. Mais parmi les îles, il y a deux Gili qui sont beaux et exotiques. Ils sont Gili Sudar et Gili Kedis. Gili Sudak est une petite île entourée de belles plages. Située dans le district de l'ouest de Skotong, le village de Medang, le hameau de Batu Kijuk à l'ouest de Lombok. Gili Sudak a environ 30 hectares de large. Bien que ce soit une petite île, Gili Sudak est très exotique avec du sable blanc et de l'eau claire. Actuellement, de nombreux touristes connaissent Gili Sudak comparé à d'autres Gili qui sont bien connus tels que Gili Terawangan, Gili Meno et Gili Air. Gili Sudak est plus calme. Donc, pour vous qui voulez être détendu tout en profitant de la beauté de la nature avec une station calme, vous pouvez visiter Gili Sudak comme votre prochaine destination. C'est parce que cet objet touristique manque encore d'installation, nous vous suggérons d'apporter vos propres aliments et boissons si vous souhaitez aller à Gili Sudak. Gili Kedis est aussi une petite île. Elle est située à Central Skotong, Lombok Occidental, ou précisément en face de Gili Sudak. Cette petite île est belle et fraîche. Cette plage couverte de sable blanc et l'eau de mer claire fait que l'on s'y sent plus longtemps. Cet objet touristique est inhabité. Comme Gili Sudak, cet endroit a un panorama sous-marin qui est très beau. Diverses sortes de beaux récifs de corail et de poissons d'ornement colorés peuvent être trouvés ici. Serviteur, avant d'arriver à Gili Kedis, vous passerez d'abord Gili Sudak. Pour aller à Gili Sudak, vous devez louer un petit bateau pouvant accueillir 6 personnes. Le prix de louer le bateau est d'environ 300 000 rupiah à 500 000 rupiah, y compris le voyage à Gili Sudak et Gili Kedis. Ce voyage prend 15 minutes de la ville de Mataram à Gili Sudak. Pendant ce temps, de Gili Sudak à Gili Kedis, cela prend environ 10 minutes. Serviteur, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui avec le titre Gili Sudak et Gili Kedis de Lombok. Demain, nous retrouvons avec notre sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Serviteurs, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur pour ce soir ayant pour titre la Journée mondiale des enfants 2018. En plus de commémorer la naissance de Pancasila le 1er juin, est également commémoré comme Journée internationale des enfants. La Journée internationale de l'enfant ou fête des enfants est célébrée chaque premier jour, tandis qu'elle est universellement commémorée le 20 novembre. La Journée des enfants est un événement important dont la commémoration a des dates différentes pour chaque pays. La célébration comme grande journée vise à respecter les droits de tous les enfants dans le monde. Compte tenu, nombreux cas de violence et d'abus ont été vécus par des enfants indonésiens et dans d'autres pays. Ces cas continuent à augmenter chaque année et deviennent un facteur effrayant pour les jeunes générations. Pour soutenir le bien-être des enfants et protéger leurs droits légalement, l'une des façons est de créer la loi numéro 4/1979 sur le bien-être de l'enfance, dont le contenu mentionne les dispositions du problème des enfants en Indonésie. Ensuite, l'instruction présidentielle numéro 2/1989 stipule que la formation du bien-être de l'enfance est basée sur la base légale pour la création d'enfants indonésiens au cours de la première décennie 1966-1996 et la deuxième décennie en 1976-2006. Les enfants en tant que prochaine génération de la nation doivent être protégés. La protection de l'enfance ne peut pas être séparée des enfants en tant que victimes, témoins ou même en tant que suspects criminels. Par conséquent, un système efficace de protection de l'enfance est nécessité à condition qu'il y ait des composantes interdépendantes. Ces composantes comprennent le système de bien-être social pour les enfants et les familles, un système de justice conforme aux normes internationales et des mécanismes visant à encourager les comportements appropriés dans la société. En outre, un cadre juridique et politique soutenant, un système de données et d'informations pour la protection de l'enfance sont nécessaires. Au niveau communautaire, ces composants devraient être intégrés à une série de services de protection de l'enfance qui encouragent le bien-être et la protection de l'enfance et augmentent la capacité des familles à s'acquitter de leurs responsabilités. Le cadre législatif et politique en Indonésie doit être renforcé pour prévenir et surmonter la violence, la maltraitance, l'exploitation et la négligence des enfants. Le cadre juridique et politique actuel est propice à la promotion des droits des enfants, mais il existe encore des lacunes. Le cadre juridique devrait désigner une agence gouvernementale ayant des devoirs, des pouvoirs et des responsabilités claires pour la manipulation et la fourniture de services de protection de l'enfance. L'Indonésie est également confrontée au défi d'assurer l'harmonisation des règlements régionaux ou PERDA et des politiques de protection de l'enfance dans près de 500 régions, chacune avec l'autorité d'adopter ses propres règles. Par conséquent, la dernière mesure prise par le gouvernement central consiste à élaborer la ligne directrice de la réglementation régionale qui fait référence à une approche systémique de la protection de l'enfance. Chers auditeurs, c'est à l'Indonésie en cours pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous les amis de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Encore avec moi, Tiwi, dans le magazine musical, une rubrique qui vous introduit des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter les chansons régionales de Nusa Tenggara de l'Est. Et pour commencer cette édition, nous vous présentons la chanson s'intitule Floba Mora. Restez avec nous à www.voinews.id.
ada Sumba, ada Timor dan Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta sonde lupa hei, beta cinta floba mora manis. Tu amo atro katenda, to ote o kabalai, ama ina dong pa doa, ator langka bye bye. Tunggu ama dong pa sola, pake kuda sandal mut, beta cinta floba mora manis. Sasando, anak Timor dong menyanyi, rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun coba mura jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mura manis. Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta sonde lupa hei, beta cinta floba mora manis. Tu amo atro katenda, to ote o kabalai, ama ina dong pa doa, ator langka bye bye. Tunggu ama dong pa sola, pake kuda sandal mood, beta cinta floba mora manis. Main musik pake sasando, anak Timor dong menyanyi, rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mora manis. Main musik pake sasando, anak Timor dong menyanyi, rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulang, tapi satu floba mora manis. Tapi satu floba mora manis.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson intitulée Floba Mora par Dedi Bertal. Cette chanson est très populaire parmi la communauté de Nusa Tenggara de l'Est. Le mot Floba Mora étant composé des noms des îles de Nusa Tenggara de l'Est, à savoir Flores, Sumba, Timor et Alor. Cette chanson décrit l'amour et le désir de la communauté errante pour son terre de sa naissance, Nusa Tenggara de l'Est. Chers amis, la chanson que nous allons vous présenter est toujours la chanson régionale de Nusa Tenggara de l'Est, s'intitule Balai Nagi. Bonne écoute!
Thank you. mababa, mukha ka ade, biaso lama, ana jalan lebar, me ana, te lupa, monadikan. Tempo apa ana pasti balik, balik serwinan. Kendati ana naik beroe,
chanson intitulée Balenagi, chantée par Benny Panjaitan. La chanson suivante est Lolo Ole, créée par Ferry Lete. Cette chanson a dit au peuple de Nusa Tenggara de l'Est de toujours se souvenir du pays de sa naissance. Chers amis, voici la chanson intitulée Lolo Ole, chantée par Kun Mali. Bon écoute.
Tari di gurau kalama tak korong, gemore more tak korong, geroma dia tak diolah oleh.
Chers amis, pour terminer le magazine musical d'aujourd'hui, je vous donne la chanson s'intitule « Anak Kambing Saya » qui raconte de l'amour et de l'intimité entre les enfants et leurs parents. Cette chanson est non seulement populaire à Nusa Tenggara de l'Est, mais aussi dans d'autres parties de l'Indonésie. En écoutant cette chanson, nous terminons l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Moi, Tiwi, je me suis excusée. Bonne écoute et au revoir. Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.